33e édition du Festival du cinéma espagnol de Nantes. À cette occasion, Laurence Aubron d'Euradio reçoit Pilar Martinez-Vasseur, programmatrice de ce festival.
Bonjour Pilar Martinez-Vasseur.
Bonjour, buenos días a todos y a todas.
Alors, je rappelle que vous êtes directrice du Festival de cinéma espagnol de Nantes. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de la 33e édition du Festival espagnol qui se tient à Nantes jusqu'au 1er avril. Alors, j'aimerais bien commencer avec cette question. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette édition 2024 et surtout de ce qui la rend spéciale ?
Alors, je dirais qu'il y a trois choses. Bon, je vais me limiter à trois. Il y a plus, mais bon, on va se limiter à trois. La première chose très particulière, je dirais, c'est notre invité d'honneur, Victor Erice, qui est un réalisateur qui n'appartient pas qu'au cinéma espagnol, ça serait quand même dommage, et qui a peuplé, je crois, l'imaginaire de toute la cinéphilie depuis très longtemps, et pour l'Espagne depuis les années 70, 73, avec son premier film, L'Esprit de la Ruche, où il parlait de la situation de l'Espagne à la fin du franquisme, mais d'une façon où vraiment tout était montré, dit, par, je dirais, l'implicite, par le silence, par le regard, et c'était les enfants qui transmettaient cette image de peur constante qui régnait sur les pays, et avec des métaphores qui étaient déjà très importantes. Mais à l'époque, les publics, comme ils ne pouvaient pas, à cause de la censure, avoir un cinéma du réel, il était habitué à dénicher, à interpréter ces métaphores. Et ces métaphores passaient par une maison isolée dans une campagne où tous les vitraux de cette maison étaient des nids d'abeilles. Donc voilà. Et le cinéma arrivait avec des bobines et avec une salle qui n'était pas une salle de cinéma, donc le cinéma ambulant. Donc à travers ce premier film, L'Esprit de la Ruche, donc c'était pas Mia Ruche, nous, à cette époque en Espagne, on s'est rendu compte que finalement, on aimait le cinéma à partir de ce film. Donc première chose importante, pas uniquement pour l'équipe du festival, parce qu'on ne fait pas le festival pour nous, ça se saurait si on le faisait pour nous, on le fait pour le public. Alors je pense que nous, notre vœu le plus cher, c'est depuis qu'on a commencé à faire ce festival, pouvoir lui dire à lui directement et à travers notre voix, tous les publics qu'il a nourris, le remercier et lui dire qu'on est rentré de plein pied dans le cinéma et dans le centre de cinéma à cause de son film. Et c'était bouclé avec son dernier de 2023 qui était à Cannes, Fermer les yeux, qui est une métaphore justement de cet amour au cinéma, au public, à l'imaginaire et une mise en abîme du 7e art. Donc voilà, pour faire cette entrée dans l'édition. Et je le fais sans dire, parce que je pense que chaque public aura une vision de ce réalisateur. Nous avons proposé la projection de son premier et son dernier film, au 14A les deux, au Théâtre Gralin le dernier, Fermez les yeux, suivi d'une masterclass, c'est-à-dire une rencontre, je dirais une discussion entre lui et Alain Bergala, qui est un scénariste, un critique de cinéma, et un auteur très important en France. Et ces deux hommes se connaissent depuis longtemps, mais Alain Bergala, en plus de tout ce que le public français connaît de cet homme, ce professionnel de cinéma, il y a aussi quelque chose de particulier, c'est qu'Alain Bergala a fait il y a quelques années un documentaire dont le titre est « Victor Erice, Paris-Madrid, aller-retour ». Donc ce documentaire sera projeté au 14A. Et puis pour cette journée du 28 mars, qui est particulièrement importante, au Théâtre Gralin, à l'Opéra, on projette son dernier film, donc « Fermez les yeux », la masterclass Alain Bergana, Victor Erice, qui sera, on a pensé nous, c'était peut-être la personne la mieux à même de pouvoir converser avec lui. Donc on a parlé des conversatorios plus que des masterclass.
On reviendra sur la carrière de Victor Erice. Est-ce qu'il y a des thèmes et des tendances en particulier qui se dégagent quand même cette année ?
Alors, je pense qu'il y a donc cette première entrée. Et je dirais que la deuxième entrée qui nous paraît importante, c'est d'avoir fait enfin, parce qu'il y a toujours comme une sorte de sac à dos qu'on traîne tous les ans en disant « Cette année, on va faire un cycle cinéma-animation. Bon. » C'est vrai que l'animation, il est évident que nous sommes dans un festival généraliste de tout le cinéma espagnol. Et l'animation, c'est aussi un public qui pense que l'animation, c'est le dessin animé, etc. Donc on avait besoin d'avoir, comment dire, des locomotives des cinéastes qui représentent pour le grand public un cinéma et en plus le cinéma d'animation. On a eu la chance de compter avec Fernando Trueba, réalisateur connu du public en général, Nantais en particulier, qui cette année nous fait les cadeaux d'un film d'animation. Ils sont tirés sur Le Pianiste avec Mariscal, des dessins merveilleux, des couleurs et une histoire vraie. Un pianiste qui brésilien qui va se produire en Argentine et qui disparaît, personne ne sait comment, au moment où la dictature argentine arrive. Donc voilà, il y a une enquête, il y a des archives, mais Fernando Trueba et Mariscal avaient besoin de nourrir cette histoire qui ne pouvait pas se faire ni en documentaire ni en fiction. Donc un film animation magistral qui sort en France en décembre, on le passe au 14h, etc. Puis deuxième locomotive, est Pablo Berger, voilà, qui fait un film d'animation qui était aux Oscars là récemment, qui concourait pour le meilleur film d'animation. Il n'a pas eu l'Oscar, mais c'est pas grave. Il nous l'a dit l'autre jour. Donc, avec un film d'animation, Mon ami robot. Or, ces deux portées d'entrée étaient merveilleuses déjà. Et on ajoute une troisième portée d'entrée. On a un auteur de romans graphiques, bandes dessinées, etc., Paco Roca. Les spectateurs du cinéma peuvent voir à Cosmopolis cette exposition magistrale qui parcourt non seulement l'histoire d'un dessinateur ambulant, mais qui parcourt à travers ses dessins, ses planches, l'histoire de tout un pays, à travers l'histoire de sa famille, de ses parents, de vous et de nous. Parce que là, il n'y a pas de frontières. On a tous vécu dans ces années où vraiment les biens de consommation n'étaient pas là. Et donc, ça, c'est à Cosmopolis. Avec cette portée d'entrée, ces trois portées d'entrée, ainsi que l'animation qui accompagne. Donc ça, c'est, je dirais, c'est le deuxième élément
grand
important.
Thème, ouais.
Oui. Et puis donc, je dirais cette année, il y a, comme nous le disions dans l'éditorial du programme, une suite de ce qu'un cinéma décliné au féminin qui a commencé depuis les années 90 avec quelques cinéastes comme en France, Boyaïn, Coïssette, etc., qui sont un peu les figures tutélaires, même s'ils sont toujours jeunes. Mais tout d'un coup, dans le 21e siècle, donc à partir de l'année 2020, 2018, donc on est en train de faire une histoire qui est en train de se faire, arrive au cinéma des réalisatrices qui sortent des écoles de cinéma, qui font des séjours par des bourses européennes ou nationales, etc., des écoles de cinéma, qui ont la possibilité d'avoir des regards sur le monde complètement différents, où là, il n'y a pas uniquement une revendication du cinéma fait par des femmes derrière la caméra, mais un regard qui est propre, sans aucune revendication. Et là, il y a l'année dernière déjà une pléiade de réalisatrices, et cette année, il y a, je dirais, la suite et c'est sans fin.
Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que dans cette année, mais comme les années précédentes, vous faites une grande place aux femmes réalisatrices. Ce n'est pas une première.
Non. Je dirais, là maintenant, on n'est jamais dans le regard du rétroviseur, parce que je veux dire, la culture, c'est aujourd'hui et surtout demain. On n'est sûr de rien. Mais on a fait un peu un bilan à un moment donné quand ces réalisateurs sont revenus, etc. Et on s'est rendu compte que quand on a commencé le festival au cinématographe, la première fois où le festival s'ouvrait à un public réduit, puisque c'était une seule salle, c'était déjà avec une première réalisatrice catalane, Roja Vergés, qui venait avec sa bobine dans son avion, vraiment un petit peu comme dans les scènes des Tintins. Et donc c'est elle qui nous a ouvert les portes vers ce cinéma fait par des femmes, des femmes d'ailleurs qui ont arrêté au bout de deux ou trois films, mais comme en France et dans d'autres cinémas. Ouais.
Quelle évolution notable peut-on observer dans la cinématographie espagnole concernant justement la présence des femmes productrices et réalisatrices?
Là, je crois que c'est un grand changement parce que tous ces projets dont on parle dans le programme, donc on va les citer puisque le programme est là, etc., c'est que le fait qu'elles passent de l'autre côté de la caméra, qu'elles puissent choisir les projets, non pas uniquement pour des questions de genre, sinon l'intérêt des projets. Et surtout, je dirais, c'est la première fois où ces femmes, mais aussi dans le cinéma français, revendiquent leurs propres désirs et ne sont pas objets de désir. Là, je crois que c'est un pas franchi important.
Peut-être une première. On peut peut-être voir un petit peu ce programme avec peut-être les thèmes abordés par ces réalisatrices dans leurs films et peut-être expliquer comment ces réalisatrices parviennent à concilier des sujets qui sont des sujets universels avec des problématiques locales dans leurs films.
Je crois que ça, c'est le propre du cinéma espagnol depuis ses débuts. Je veux dire, c'est un cinéma qui fait du local un sujet universel. Parce que il y a cette façon, je crois aussi dans la littérature, on voit souvent ça, il y a aussi un retour souvent aux identités, aux racines, à la famille. On voyait ça dans les films de Carlos Saura, Cría Cuervos, etc. Donc je crois que c'est ce regard-là qu'elle porte aussi, mais en même temps sans s'oublier que ce local qui devient universel, comme on voyait dans le film « Le soleil », ou 20 000 espèces d'abeilles, ou la question du genre d'un jeune garçon qui s'avoue, évidemment, mal à l'aise dans ce corps, mais en même temps, sans aucune démonstration. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun discours explicatif, il n'y a aucune revendication. Tout coule de source, de façon que le spectateur se trouve immergé dans une histoire qui lui appartient. Et je crois que ça, c'est la grandeur de ces cinéastes.
Et justement, en quoi la liberté de ces réalisatrices espagnoles se reflète dans leurs œuvres?
Mais je pense que c'est une liberté générale du pays. C'est-à-dire que l'Espagne est un pays où je pense que les différentes lois qui sont passées depuis la période de José Rodríguez Zapatero, mais l'arrivée de Pedro Sánchez aussi au gouvernement a changé avec des ministres, hommes et femmes, qui revendiquent pas simplement la parité, l'égalité en chiffres, mais aussi toutes les avancées sociétales qui ont eu lieu, montrent aussi qu'il y a une société qui est beaucoup, je le dis puisque je vis entre les deux pays, beaucoup plus ouverte qu'en France. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des thèmes qui ne sont plus tabous depuis longtemps. Et je crois que ça ne peut que se refléter dans les œuvres d'art. Donc voilà, on parle librement, on met des mots à des avancées et à des questions de société ou personnelles aussi, que je pense en France, d'après ce que j'entends et ce que je vois, il y a toujours une façon implicite d'en parler parce que chaque chose a un mot et pas un autre. Donc là, je pense que les cinéastes sont emparés de ça. Et le film de Coixet, Un amor, que je recommande, c'est, je dirais, le film qui réunit ces ensembles de ce qui pourrait être dans d'autres pays, tout simplement des revendications lâchées, tout naturel.
Alors, le titre de cette année, c'est « Combien d'espèces d'abeilles ?» Est-ce qu'on peut dire que ça a un lien avec ce film, 20 000 espèces d'abeilles?
Et c'est aussi un retour au premier film de Victor Erice, L'esprit de la ruche, où finalement, en 1973, c'était la fenêtre qui était un vitrail composé par des cellules d'un nid d'abeilles, mais qui faisait un obstacle pour regarder le pays. Aujourd'hui, dans le film d'Estivalis Orechola, 20 000 espèces d'abeilles, elle montre comme finalement, il n'y a pas une seule abeille. Il y a des milliers d'autres abeilles possibles qui vont cohabiter dans une société patriarcale, matriarcale, qui est celle du Pays Basque, où finalement l'histoire de ce garçon, de cette fille, finalement montre toutes les contradictions qui se retrouvent dans le monde des adultes. Donc c'est pour ça que le cinéma espagnol finalement correspond à ça. Des questionnements constants, sans savoir très bien où l'on est, et d'où on pose la question.
Est-ce que ce rôle, est-ce que ce film, il joue un rôle particulier dans la programmation du Festival espagnol cette année ?
C'est un film qui a eu un prix à Berlin l'année dernière et on a été très heureux. Donc, on n'a pas pu le passer au festival dernier, mais il a eu une sortie en France là tout récemment, donc dans toutes les salles françaises. Et je pense qu'il a joué un rôle très, très important. Nous, on le passe aussi en film scolaire. C'est aussi important que les collégiens et lycéens abordent cette question avec le même naturel que la réalisatrice. Donc, pour le cinéma espagnol, il a joué un rôle, mais je pense que c'est un peu le rôle qu'a joué le film Liberta, je ne vais pas citer de nom et des titres de films, qui est aussi un film qui aborde aussi des questions comme El Agua, la maternelle, las niñas, etc., où l'on posait des questions sur cette évolution de l'âge d'enfance à la préadolescence, à la maternité non désirée dans l'adolescence, à cette espèce d'affiliation entre mère-fille qui était compliqué, difficile à aborder, la question de l'éducation. Tout ça, je dirais, coule de source à travers ces cinéastes qui montrent une image du pays qui est une image d'un certain pays. Je ne vais pas dire toute la totalité de l'Espagne, comme en France.
Oui, tout à fait. Alors, on a parlé un tout petit peu de Victor Hérissé. Moi, j'aimerais revenir sur l'héritage cinématographique. Je pense qu'on peut quand même parler de ça, de Victor Hérissé. Et est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'importance et de l'influence de ce film L'Esprit de la Ruche, qui est sorti, si je me rappelle bien, en 73, dans l'histoire du cinéma espagnol?
Mais je pense que quand le film est sorti, en 1973, les spectateurs espagnols étaient habitués à un cinéma qui était celui de Carlos Saura, qui avait commencé dans les années 60, qui était un cinéma très métaphorique, parce qu'évidemment, la censure était là, et c'était des cinéastes qui avaient intégré la censure, de l'autocensure. Donc lui se place dans cette lignée-là, avec un cinéma métaphorique et symbolique, mais avec un univers, je dirais, beaucoup plus poétique et littéraire. Et Carlos Saura a été photographe, et c'est pas le cas de Victor Hérissé. Mais l'héritage, je dirais, vient par le deuxième film, qui est celui de Cría Cuervos, en 1975, où la même actrice, Ana Torrent, la jeune, la petite fille de 8 ans, avec les yeux noirs perçants, qui regarde le spectateur, qui nous regarde nous, c'est là où ça commence, cette trajectoire. Ensuite, dans le sud, 10 ans après, c'est à nouveau cette Espagne qui est l'Espagne aussi de l'exil. C'est l'Espagne de l'exil, c'est l'Espagne de ce fugitif, de ces mercenaires, de ces maquisards qui sont quand même dans le pays et qui sont dans la résistance et que le franquisme va pourchasser, mais pas un film politique. Tout passe par le regard de l'enfant qui imagine que ces fugitifs qui se cachent dans une maison poursuivis par la guerre civile, on ne voit pas la guerre civile non plus, on voit simplement qu'il y a eu une fusillade parce qu'il y a des trous dans le mur. Donc, c'est cette Espagne du franquisme et de l'après-franquisme.
Ça marche plus par symbole, quoi.
Complètement. Et je dirais que le protagonisme de ce film est très important parce que c'est le silence qui régnait dans la société. Il ne fallait surtout pas dire, parce qu'il y avait évidemment quelqu'un qui guettait et qui dénonçait. Donc ça, il le montre de façon incroyable. Et dans ce film, Le Sud, je termine, c'est la protagoniste, c'est Itziar Bollaín, qui plus tard devient réalisatrice des films Ne dis rien, Max Sabel, etc. Donc elle a franchi le pas de la jeune fille du Sud à être la réalisatrice qui va raconter le pays, ouais, avec ce regard que lui a inculqué Victor Hérissé, mais déjà en liberté.
Comment son dernier long métrage, Fermer les yeux, s'inscrit justement dans la continuité de son travail cinématographique et notamment par rapport à l'esprit de la ruche?
Alors, c'est vrai que si je donne des clés, et je fais déjà une sorte de, comment dire, de porte d'entrée pour le spectateur. Je crois qu'il est important, quand nous on a découvert le film, personnellement, le film est sorti au mois d'août en France. C'est pas un bon moment pour sortir un film comme ça, de plus de 2 heures. Bon. Et on l'a découvert en se refusant de lire quoi que ce soit sur ce film. Donc, on avait tout ce qu'on connaissait de Victor Hesse. Et puis ce titre énigmatique fermait les yeux, alors que lui, tout son cinéma, c'est pour faire que les spectateurs ouvrent les yeux. Donc déjà, il y avait cela qui était une intrigue assez extraordinaire. Et puis, donc, dans ce film, il y a toujours ce regard qui est le sien à travers le cinéma, dans le cinéma, un film qu'on a tenté de construire, un acteur qui était l'acteur d'un film qui ne verra jamais le jour, qui disparaît. Donc, en même temps, il y a une enquête policière à l'intérieur. Comment faut-il, est-ce qu'il est mort? Comment on va le retrouver? Et finalement, c'est toujours la quête du spectateur, la quête du cinéma et la quête de soi-même. Il y a tout un travail incroyable quand on s'installe, je dis ma propre version de ce mois d'août, fin août, 14 ans. Et ce film vous parle de vous, de vos angoisses, de vos peurs, de la question de la mémoire, du temps qui passe, etc. Et c'est, comment dire, cette expérience de spectateur n'est pas unique puisque dans cette salle du mois d'août aux 14 ans, il s'est passé quelque chose de vivant, comme quoi le cinéma Victor Hesse n'est pas une archive, c'est vivant. Le film se passe plus de 2 heures après son début. Personne n'est bougé de la salle. Et une des personnes de l'accueil du 14 ans ouvre la porte, regarde, personne n'avait bougé, et dit « Messieurs, dames, la séance est terminée ». Et ça, je crois que je ne l'avais jamais vécu.
Le silence, à nouveau.
Ah oui.
Continuité.
Oui.
Quels sont les éléments spécifiques de l'œuvre de Victor Hérissé qui ont peut-être influencé les générations suivantes de cinéma, de cinéastes espagnols, selon vous,
Pilar? Alors, j'avais utilisé dans un petit texte qui commence le programme cette année, un texte que j'avais trouvé très beau de la réalisatrice catalane Carla Simón, qui est l'autrice de l'été 93 et surtout de No Soleil Alcaraz, qui a été primé au Festival de Berlin et qui a été un grand, grand succès, je le dis en insistant. Plus de 300 000 spectateurs en Espagne et je ne sais pas combien de spectateurs en France parce que le film continue toujours son parcours. Un film sur une famille donc en Catalogne qui doit abandonner ses terres parce qu'évidemment elles ne sont pas rentables, les panneaux solaires, enfin quelque chose qui est devenu d'actualité en France là tout récemment et qui va continuer d'être d'actualité. Donc cette réalisatrice-là, la réalisatrice avait 1000 espèces d'abeilles. Clara Roquette de Libertad, toute une génération qui ne trouve pas des référents dans un cinéma fait par des femmes parce qu'elles sont trop proches, Coïssette ou Boyaïn, et qui se réfère évidemment aux grands noms des femmes cinéastes de cinéma mondial. Elles sont, je dirais, deux figures tutélaires. La première, c'est Carlos Saura et Cria Cuervos, parce que parlant de la famille, parle du monde. Et il y a ce texte que Carla Simón a adressé lorsque le film « Fermez les yeux » sort, et Carla Simón lui dit « Je dois, cher Victor, en grande partie, mon amour pour le cinéma à ton esprit de la ruche, à ton sud, à ton songe de la lumière, à tes fillettes et à leurs yeux, à tes silences et à ta musique, à ta mémoire historique remplie d'objets, au regard de tes personnages. » Gracias, maestro. Je dirais, ces paroles de Carla Simón, je peux les faire, on peut les faire nôtres, parce que je pense qu'on lui doit tout. Et quand on nous a posé la question, on s'est rendu compte de l'esprit de l'équipe du festival, que si on a fait le festival de cinéma depuis 33 ans, c'est parce qu'un jour, on imaginait qu'il serait là.
Ça veut dire que... Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que Victor Hérissé, vous l'avez invité également parce qu'il illustre bien, en tout cas dans cette édition, les thèmes sociopolitiques et culturels de l'Espagne? Est-ce qu'on peut dire ça?
Non, je pense que son cinéma est un peu ailleurs. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui n'est pas socioculturel du tout. Je pense que, en parlant de la question de la mémoire et du temps, il y a à l'intérieur du film, il y a quelques références à peine symboliques à certains moments de l'histoire récente de l'Espagne. Mais je pense que parler pour l'Espagne du temps et la mémoire, je pense qu'il y a des documentaires et des fictions qui parlent dans cette édition de cette question des fosses communes, etc. Lui, je crois qu'il s'élève au-dessus en mettant de la distance est en train de dire au pays que le temps et la mémoire sont fondamentaux ou fondamentales pour construire le présent. Les autres films, je veux dire, qui s'accrochent de façon plus directe à la réalité, sont là pour l'illustrer. Lui, c'est pour nous faire réfléchir un petit peu dans l'au-delà et un peu avec plus de distance.
Alors, il y a une autre thématique assez importante hein, dans ce festival espagnol, qui a toujours été d'ailleurs, c'est la fenêtre basque, importante. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de la sélection et des films qui seront présentés peut-être lors de ce festival. Et puis peut-être voir aussi quelle est l'importance justement de ce cinéma basque dans le paysage cinématographique espagnol et international.
Oui, c'est vrai que le cinéma basque, on ne va pas dire que c'est un cinéma identitaire, différent du cinéma espagnol. On le dit toujours au pluriel, des cinémas espagnols, parce que c'est très difficile de réunir un pan de la culture espagnole, n'importe lequel, à l'unité, puisque l'unité en Espagne n'existait pas. C'est pas uniquement au niveau politique, mais culturel, ça a toujours été ça depuis des siècles. Mais je dirais que ce cinéma basque a déjà une spécificité. C'est un cinéma qui a d'abord un soutien très important au niveau financier de la part du gouvernement basque et de la part de l'Institut Etxepare, qui est comme l'Institut Cervantes pour la promotion de la langue et la culture basque. Ça, c'est quand même très important. Des écoles de cinéma, qui sont très importantes aussi, d'un festival de cinéma qui se passe à Saint-Sébastien. Donc, je veux dire, il y a des soutiens qui sont concrets et très précis, des résidences. Par exemple, la réalisatrice de 20 000 espèces d'abeilles a fait une résidence là-bas. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi, c'est la première communauté autonome et la première région d'Espagne qui a créé un cycle de courts-métrages basques et toutes les autres régions espagnoles ont suivi pour promouvoir les jeunes talents. Bon, donc ça, c'est déjà un contexte important. Ensuite, il y a des figures qu'on ramène souvent, comme Alex de la Iglesia, Urbizu, Borja Cobear, etc., qui appartiennent, bien sûr, puisqu'ils partent des réalités qui se passent au Pays Basque.
Oui, voilà, quand même un cinéma qui parle beaucoup de questions sociales, politiques ou culturelles.
Oui, et qui parle aussi... et qui a parlé pendant longtemps du conflit basque. Parce que je pense qu'avant de parler du conflit basque, de la question basque, de la violence que l'ETA a infligée aussi au pays pendant des décennies, le cinéma était en avance pour parler de ça de façon ou symbolique ou réaliste. Donc ça, c'est important. Le cinéma basque a suivi toute la période aussi vers la trêve, vers l'arrêt de la violence. Et là, je dirais, il y a une cinéaste qui n'est pas basque, mais ici à Boyaïn, avec son film Mike Sabel, sur la repentance, la résilience, etc., a fait beaucoup, beaucoup pour parler de comment on a vécu cette période de la paix, entre guillemets, au Pays Basque. Là, il y a des cinéastes qui reviennent sur cette question, mais déjà dans un pays qui est apaisé, même si la question reste toujours vivante. Mais je veux dire que dans le film qu'on présente cette année, il y a des thématiques très différentes. Par exemple, une réalisatrice, Arantxa Etxebarria, sur un film qui est en compétition, qui signe un film qui s'appelle Chinas, chinoise. Donc, cette réalisatrice tourne un film sur comment la communauté chinoise dans un quartier de Madrid a des grandes difficultés pour s'intégrer et s'assimiler. Et prend comme protagoniste de cette séquence de l'identité, de l'assimilation difficile, deux jeunes filles qui viennent de cette communauté chinoise. La première, elle est la fille des parents qui tiennent un bazar. Et en Espagne, on dit souvent « vamos a los chinos », donc on va au bazar acheter toutes sortes de choses, parce qu'ils sont ouverts même la nuit, parce que c'est... Bon. Et l'autre, c'est une jeune fille china, mais qui vient d'être adoptée par des parents espagnols. Bon. C'est à travers ce regard des enfants et la difficulté de s'intégrer dans une société comme l'espagnole, où on parle de l'intégration, évidemment, des populations migrantes qui viennent du nord d'Afrique, mais cette communauté, on ne l'avait jamais vue comme ça. Donc, c'est une réalisatrice basque qui traite de cette question et qui vient de finir un film très politique sur le Pays Basque, sur une femme qui s'est infiltrée dans un commando de théâtre. Donc, mais ce film, Tinas, qui est un film particulièrement intéressant et qui nous pose à nous des questions sur, en France aussi et en Espagne, sur ces questions d'intégration et d'assimilation. Ouais. Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que ce sont les valeurs? C'est interdit. Donc voilà, c'est-à-dire ouvrir la boîte du cinéma basque, c'est avoir tous les sujets de tous les cinémas parce que il y a des multiples et il y a beaucoup de femmes cinéastes aussi au Pays Basque. Et là, ce soir, donc à 20h, a lieu un festival de courts-métrages qui se passe au Théâtre Gralin. C'est vraiment une grande fierté pour le festival depuis presque 20 ans d'avoir fait ça. Il y a des cours basques. Bon, je ne vais pas donner des avis puisque les spectateurs vont voter. Mais aussi, dans les cours, il y a déjà un début, un vivier pour les longs-métrages basques.
Oui, justement, j'ai une question par rapport à ça. Mais c'est en quoi, justement, cette fenêtre, la présence, en tout cas, de cette fenêtre basque au Festival espagnol de Nantes, comment est-ce qu'elle contribue à promouvoir une espèce de réalité, diversité culturelle et linguistique au sein de l'industrie cinématographique, en fait?
Mais tout d'abord, je pense que c'est un pari improbable quand on l'a fait il y a presque 20 ans. Parce que intégrer une fenêtre avec une langue qui n'est pas une langue latine, c'est une langue pré-indo-européenne qu'on ne comprend pas comme le catalan ou l'italien ou l'espagnol pour ceux qui ne le sont pas, etc. C'est déjà un pari sur la langue. Donc tous les films sont tournés en euskera, en langue basque, sous-titré français, on ne passe pas par l'espagnol, et aussi faire que les spectateurs entendent une langue, parce que entendre les sons d'une langue, ou les accents, comme c'est le mien, c'est entendre la culture qui est véhiculée aussi par la langue. Et donc, cela véhicule quoi? Cela véhicule quelque chose que nous, historiens, on n'a jamais réussi à faire comprendre en France. C'est-à-dire que l'Espagne est un État avec quatre langues, pas de dialectes, et que chaque langue comporte une identité, une autonomie politique, avec un parlement, avec des institutions, avec un enseignement en basque et en catalan. Donc voilà, le cinéma le dit, sans besoin de faire de la didactique. Et pour nous, c'est important que cette communauté soit représentée, parce que, en plus, c'est un vivier de cinéma.
Est-ce que vous avez des retours sur la façon dont ça fonctionne, comment ça résonne auprès du public, et notamment du public nantais, cette fenêtre basque?
Mais c'est vrai, parce que la première année, comme toujours dans la vie, la première année, on se souvient, quand on avait passé ces 4 ou 5 films, les spectateurs sortaient au bout des 18 minutes, etc., dans le hall du 14, ils disaient « C'est bizarre, on a dû se tromper de film, parce qu'on a l'impression que c'est un film qui doit venir ou dont l'origine doit être un des pays de l'Est. » Et donc, nous, on était là et on faisait toutes les explications linguistiques et culturelles, etc. Bon. Donc, ça a mis quelques années. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est le travail qui est fait par l'équipe. Et ce travail aussi de médiation. Aujourd'hui, le public rentre dans un cinéma en euskera comme il rentre dans un film en langue castillane. Donc, comme quoi, je pense que lorsqu'on s'habitue à écouter la langue de l'autre, et ce n'est pas dans cette radio que je vais convaincre.
Non, pas du tout.
Donc, voilà.
Musicalité d'une langue pour apprendre aussi les langues, c'est pas mal. J'aimerais bien qu'on passe un peu de temps sur le programme. Et quels sont les autres réalisateurs les plus renommés, enfin présents lors de ce festival, et peut-être voir un peu quelles sont les caractéristiques distinctives de leurs œuvres.
Alors, je commencerai par le film d'ouverture, dont le titre est « L'étoile bleue »,« La Estrella Azul » de Javier Masipe, qui a été donc projeté le 22 mars, je dis la date parce que ça restera dans l'histoire du festival, marqué à jamais. C'est un premier film. C'est un film fragile, sans acteur connu, aucun, avec donc un casting non professionnel, un réalisateur non connu, et présenté en ouverture du festival. Voilà. Ce film a été vu dans la même soirée, et au 14 ans, et à l'Opéra, 1000 personnes. Avec les hésitations des programmateurs que nous sommes, et je parle toujours au nom de l'équipe, des questions Cette année, nous n'aurons pas un film avec Penélope Cruz, avec Tochard, nous n'aurons pas un film...
Mais pas où... de star, quoi.
Oui. Le précédent, c'était Bardel, le bon patron, etc. Bon. Qu'est-ce qui va se passer le jour de l'ouverture ? L'ouverture, tout le monde sait. C'est un peu le lancement de... Bon. Le pari a été fait. Le film est projeté. Et on revient voir, parce qu'on aime bien revenir du 14 juin vers l'opéra pour voir comment le public ressent. On sentait que le public riait. Ce n'était pas un film comique du tout. Hein. Bon. Le film se termine. Le réalisateur était venu à la fin de la projection, avant de sortir sur la scène. Puis on se dit, tiens, cette année, comme les autres réalisateurs qui sont quand même un peu plus chevronnés demandent toujours de les accompagner parce que la scène du 14 de l'opéra est un peu impressionnante. Donc voilà, on l'accompagne pour un moment où le générique se termine. Et puis, la grande surprise historique pour le festival, c'est qu'on voit tout le parterre debout, premier balcon debout, deuxième balcon debout, tout le monde debout, les applaudissements n'en finissaient jamais. Un cinéaste n'est pas connu, un film n'est pas connu, et vraiment, on n'a jamais ressenti une adhésion envers une histoire racontée. Bon. Donc là, c'est un film qu'il faut aller voir, parce que le plébiscite le plus important, c'est le public de ces soirées-là. La rencontre avec ce réalisateur qui a 30 et quelques années. Et je dirais c'est important parce qu'on n'avait jamais vu des applaudissements de ce type-là depuis qu'il y a 15 ans, Carlo Saura était venu présenter le film Dio Don Giovanni, qui était un opéra adapté et donc au cinéma. C'était la seule fois. Alors on a trouvé magnifique... Parce que lui, il était mais complètement décontenancé, il ne savait pas, bon, c'est le moment le plus important. Mais pour nous, c'est important. Donc là, c'est le film qu'on a programmé en compétition Jules Verne qu'il faudrait voir. Il y a Tina dont je parlais.
Enfin, le festival espagnol, il est quand même précurseur pour dénicher des talents, quand même. On peut le dire.
C'est sûr, et c'est toujours acquis tout double, comme tout dans la culture. Hein. Jusqu'au moment où l'écran s'est allumé, on était quand même dans le doute. Je veux dire, en plus, on ne programme pas pour nous. Donc, ce n'est pas parce que nous, on avait été émus, etc., que le public nantais ou français pouvait l'être. Mais il y avait des ingrédients, je veux dire, de sincérité, de lien qui est très important de l'Espagne vers l'Amérique latine. Sans grand discours ni de grandes déclarations, de post-colonialisme, de ceci, cela, par la musique. Qui se transfère d'un pays à l'autre facilement. Donc, voilà. Dans la compétition, j'ai parlé aussi du film de Una Morte, de Coisette. Il faudrait parler aussi d'un film, un premier film de Victor Iriarte, qui est passé hier au cinéma le 14 ans, Surtout la nuit. Premier film aussi, très intéressant. Et où le public va pouvoir trouver la jeune fille Anna Torrent de Grands yeux noirs, du premier film d'Hérissé, L'Esprit d'Aruche, des Criacueros, maintenant devenue adulte, et qui a un regard aussi extraordinaire dans ce film, premier film. Donc voilà, il y a un mélange de réalisateurs confirmés, David Trueba, il y a également Martin Cuenca, on avait ouvert avec lui, et l'auteur, etc. Donc il y a un peu un mélange de confirmés et des jeunes réalisateurs où vraiment les paris sont confirmés par le public et pourra voter in fine et puis donner le prix du public.
Alors, on a parlé de la soirée d'ouverture parce que c'est généralement un moment attendu par le public nantais. Est-ce qu'il y a d'autres événements spéciaux ou des projections qui sont comme ça particulièrement attendues par le public chaque année ?
Je pense que la séance de court-métrage,
de court-métrage
à l'opéra, c'est incroyable. Parce qu'on a commencé avec... quand on a commencé à travailler avec l'opéra, c'était un risque. Le pari était intéressant. Faire du court-métrage à l'opéra. Bon, réussi, public mélangé, opéra, cinéma, etc. À tel point qu'on a fait deux séances de court-métrage aux 14 ans en plus. Donc ça, c'est une soirée importante. La soirée, donc masterclass avec Victor Hérissé, est particulièrement importante. Et puis, il y a des rencontres avec le film dont je parlais, des Tines, qui vont être des séances importantes avec un public intergénérationnel, parce que c'est un film où les bouches à oreilles a beaucoup, beaucoup joué. Et l'intérêt, parce qu'en France, il y a eu récemment un documentaire qui est passé sur la communauté chinoise en France. Et donc, ça fait écho à la question espagnole. Donc, comme quoi, les frontières n'existaient pas, je vais le croire, parce que comme je suis entre deux. Et ce genre de problématiques se retrouvent. Et puis, je pense que la séance qui est toujours très attendue, c'est la clôture, parce que là, c'est la remise des prix. Personne n'est dit quel est le prix. Et on va finir avec un film qui est une comédie. On dit souvent que le cinéma espagnol est grave, que finalement on aime les drames, on aime les films historiques. Bon, que l'humour espagnol est compliqué. Bon, les Français, c'est pas simple non plus, parce qu'on ne rit pas des mêmes choses. Mais là, c'est vraiment sous thérapie, donc avec un réalisateur, Gerardo Herrero, qui n'est pas connu en France, qui méritait parce qu'il a plus de 32 films à son actif, qui est producteur aussi. Et je pense que ça pourrait être du cinéma français facilement. C'est presque du théâtre au cinéma, avec des grands acteurs, un très beau scénario, et qui nous met tous sous thérapie, mais avec une fin heureuse. Donc je pense que pour finir l'édition, on pensait que c'était pas mal.
On a parlé du public, hein, qui est quand même très important dans ce festival espagnol. Est-ce qu'il y a une manière de travailler pour faire participer ce public? On a l'impression que le public y participe pendant tout l'événement.
Mais je crois que la raison, c'est le fait que nos invités, tout âge, génération, confirmée ou pas confirmée, tous nos invités, écrivains, journalistes, etc., ont ceci en commun. Ils sont tous très accessibles. Je vais commencer par Bardem, qui paraissait vraiment l'icône inaccessible. Bon, Carmen Maura, Marisa Paredes, Tosal, etc., etc. Bon, tous. Donc, il y a ce côté accessible, c'est-à-dire il n'y a pas des divas. Ils sont très, très heureux de voir que le public français, nantais, se mobilise pour voir leurs œuvres. Bardem, son seul caprice, c'était pouvoir rentrer au 14A ou à l'Opéra, voir le film en salle, en temps normal. Ça veut dire qu'ils sont tellement reconnaissants que des gens se bougent de leur télévision pour rentrer dans une salle de cinéma, voir du cinéma, qu'ensuite, les rencontres, les cosmorencontres à Cosmopolis, ben, ce sont des échanges, comme on a vu l'autre jour avec Pablo Berger, auteur et point de départ de ces ciné-concerts merveilleux, mythiques, mais c'était vraiment que du bonheur. Pablo Berger rencontrant les spectateurs à Cosmopolis, après Mon ami robot et Blanche-Neige, le ciné-concert, etc. Et avec une accessibilité, un dialogue, quand il présente le film Mon ami robot, sur des anges enfants, quel est l'anime que vous connaissez. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un aspect de bannir les frontières entre ceux qui font du cinéma, réalisatrices, etc., et ceux qui le reçoivent. Et un énorme respect pour les publics, comme Victor Hesse. C'est-à-dire, sans les publics, ils n'existent pas. Donc là, il n'y a vraiment pas de stars, des divas.
Ma question, Pilar, c'était aussi de savoir comment on crée ce dialogue. Est-ce que, du coup, la programmation, est-ce qu'on a regardé qui était ce public nantais, est-ce qu'on a créé la programmation pour ce public nantais? Est-ce qu'il reflète véritablement les autres régions françaises ou pas? Mais du coup, comment on a créé ce dialogue entre les cinéastes espagnols et ce public nantais?
Moi, je crois qu'il y a aussi une question qui est importante, et c'est le travail qui est fait depuis les débuts auprès des scolaires. Je veux dire que là, vous créez un public. Lorsque vous amenez le cinéma, ou vous amenez les élèves collège, lycée, universitaire, dans les salles de cinéma, vous créez le public de demain. Et vous les créez parce qu'il y a un travail des enseignants auquel il faut rendre hommage à ce moment, parce qu'ils font un travail extraordinaire. Il faut susciter les vocations pour ce métier. Je suis vraiment là pour le dire. Et je crois qu'ils sont en train de créer une cinéphilie sans le savoir. Ce public est le public de demain. Et donc, ça, c'est important. Nous, on ne programme pas pour le public. On ne programme pas pour nous non plus. On programme en pensant... C'est une sélection, puisque c'est toujours la frustration. Il n'y a que 70 films, il pourrait en avoir plus. Mais une sélection qui reflète un petit peu ce qu'on fait dans ce cinéma des pluriels. Peut-être pas le meilleur. Mais je veux dire, il n'y a pas une barre en disant ça c'est la qualité, ça c'est pas du cinéma auteur, etc. C'est une pluralité pour tous les publics.
Mais ce qui reflète l'époque d'aujourd'hui.
Oui, c'est ça. c'est tous les publics. Et c'est, tous les publics, ça a été toujours l'objectif numéro un. Et dans c'est tous les publics, il y a du cinéma d'auteur, il y a du cinéma plus grand public. Et je pense que ce public maintenant fait confiance, non pas pour Romater, mais au cinéma espagnol. Parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver dans ce cinéma, peut-être, un regard sur le monde qui est différent d'autres cinémas.
Il y a une case dont on n'a pas parlé, c'est la case documentaire. Elle est importante également. Donc, que peut-on dire de cette case documentaire aujourd'hui, mais sur ce festival?
Je pense que c'est très intéressant parce que le documentaire, qui, il y a maintenant 15 ans, était un format, on disait, réservé à des gens qui regardaient un cinéma par rapport aux archives ou par rapport à la reconstitution du réel, etc. Je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les cinématographies, il y a cette porosité entre
oui, ça nourrit le cinéma,
la fiction
également.
Et le documentaire. Cette année particulièrement, il y a beaucoup de films où le documentaire, par exemple le film d'ouverture, La Estrella Azul, l'étoile bleue, la fiction et le documentaire parfois sont là. Mais quand on a créé ce cycle, il y a maintenant 20 ans, on l'a créé parce qu'avec le Colegio d'Espagne, qui est dans la cité internationale universitaire, qui réunit vraiment des chercheurs du monde entier, on a pensé que ça méritait de le mettre en exergue pour que le public rentre de plein pied dans ce qui était parfois un peu difficile. Et maintenant, c'est comme La Fenêtre Basque, c'est adopté et adapté. Et dans ce genre documentaire, dans la compétition de cette année, on voit depuis des films vraiment d'auteurs, des films de recherche avec des archives, des reconstitutions, etc. On voit également un cinéma qui parle des maladies comme l'Alzheimer, des questions comme la vieillesse, des questions des migrants qui passent la frontière clandestinement à Melilla et comment ils sont intégrés par la danse. Des documentaires qui parlent également sur les questions des femmes. C'est-à-dire, c'est un cinéma social, mais pas uniquement, mais avec maintenant des approches qui peuvent être aussi des approches où la fiction et le documentaire vont se mélanger assez facilement. Et dans ces documentaires, il y a également, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est retrouver des figures qui sont disparus de la mémoire collective. Bon, par exemple, il y a un documentaire sur une danseuse de flamenco dont on avait entendu parler, bon, quand je viens entendu parler, et qui était sourde et muette et qui dansait du flamenco. Et on se souvenait qu'il y a eu cet épisode, etc. Et donc, il y a une cinéaste qui va chercher, donc un travail vraiment de chercheur, les traces de cette cinéaste. Pourquoi elle a quitté la scène, alors qu'elle était vraiment en première page de tous les médias, qui a fait des tournées énormes, jusqu'à vraiment tomber malade, puisqu'elle exploitait, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire, reconstituer les origines des flamencos, mais pas des castagnettes et au lait, mais cette source, ses racines, même la culture espagnole, qu'on voit dans Blanche-Neige, par exemple, qui était à l'opéra l'autre jour, avec un ensemble de flamencos extraordinaires, danseurs, chanteurs et palmeros. Qui se mélangeait à l'Orchestre National des Pays de la Loire comme si vraiment ils savaient toujours jouer ensemble.
On a dit 33e édition, Pilar. Qu'est-ce qui manque? Qui n'a-t-on pas fait venir? Que n'a-t-on pas vu? C'est quoi les rêves pour la 34e, 35e édition? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Le rêve de l'équipe?
Je pense que bon, là, on a commencé à se dire, bon, c'est vrai qu'Erice est là, donc Saoul a été là pendant des années. Je pense que le rêve, je pense que beaucoup de spectateurs nous demandent au coin de la rue, parce que le festival, c'est quand on va dans le tram, quand on est dans la rue, où les spectateurs vous commentent les films, comme si vous étiez l'autrice de ces récits. Donc ça veut dire que c'est intéressant, parce qu'on est vraiment les passeurs qu'on voulait. Je pense que les gens attendent Almodovar, qui est aussi compliqué que Victor Erice, pour des raisons différentes, parce qu'Almodovar tourne beaucoup, pas mal. Et puis, il y a aussi, pour certains spectateurs, puisque Javier Bardem était là, pourquoi pas Penélope Cruz, pas ensemble, séparément. Donc, il y a comme ces questions qui sont là. Mais je veux dire, pour nous, c'est vrai que là, on nous posait la question récemment, je veux dire, être toujours les passeurs de ce qui s'est fait des plus novateurs, d'intéressants, des plus rares dans ce cinéma. Sans vraiment se dire, ah là là, si Almodovar ne vient pas, on est frustré. Non, Victor Erice n'est pas venu pendant cette année, il est là. Donc, nous, comme on est ténaces, puisque, je veux dire, la ténacité fait partie de tous ceux qui sont à l'origine ou qui organisent, je veux dire, des projets culturels comme radio, comme d'autres projets. Je veux dire, la ténacité, l'envie, l'engagement sont toujours là. Sinon, on ferait autre chose. Donc voilà, on va continuer. Si ces personnalités et créateurs viennent, on sera comblés, comme cette année ou les années passées. Mais sinon, il y a des tas de projets qui sont là. Donc voilà.
Eh bien, merci, Pilar Martinez-Vasseur, de continuer à nous cultiver, à nous émerveiller avec ce Festival Cinéma Espagnol. C'est la 33e édition qui aura lieu jusqu'au 1er avril. Merci, Pilar.
Muchas gracias a vosotros.
C'était Pilar Martinez-Vasseur, programmatrice du Festival du cinéma espagnol de Nantes, au micro de Laurence Aubron de Radio. Une interview à retrouver dès maintenant sur le site web de Radio.